Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Salut à toutes et à tous et bienvenue dans les grandes gueules du sport. Bon dimanche à vous. On compte sur vous au 32-16 et sur WhatsApp au 06 12 424 424 pour participer. Et peut-être que l'on vous accompagne pendant votre marathon de Paris. Hein. Vous êtes près de 60 000 au départ. On vivra ça évidemment tout au long de la journée avec des participants. Parce qu'il y a même des personnes, des grandes gueules du sport qui y sont. Julien Benneteau est là. Salut Bennett.
Ah oui, non, je suis pas au marathon.
Ben non, mais par contre, marathon... Jamais.
C'était quelque chose qui était sur ma to-do list quand j'étais en carrière, mais après il y a une énorme flemme. En toute transparence.
Et c'est quelque chose qui est irréversible ou,
non,
ou tu penses que tu auras la flemme toute la vie maintenant?
Non, c'est pas la flemme, c'est que là maintenant c'est physiquement parlant, je suis out. J'ai les mollets qui lâchent dès que je cours, j'ai mal aux genoux donc.
Ouais, t'as des excuses quoi.
Non, je me concentre sur des sports que je peux encore pratiquer un petit peu quoi.
Ouais,
ou avec, le tennis et le golf.
Ouais, avec une certaine qualité. Jérôme Pinault est là, salut Jérôme.
Salut Georges, salut à toutes et à tous.
Jérôme qu'on retrouve une semaine après avoir fait le Tour des Flandres à vélo.
Eh oui. Pas le marathon de Paris.
T'es en grande forme. On va y aller dans un instant. Pascal Duprat est là. Salut Pascal.
Salut les amis.
Bon, en grande forme, Pascal. T'as déjà fait un marathon dans ta vie?
Jamais de la vie. Ouais. Et ça m'a jamais traversé l'esprit. Je déteste courir quand il n'y a pas d'élément ballon, tu vois.
Simon Dutin est là. Salut Simon.
Salut Georges. Salut les copains. Bon. Quatre marathons à mon actif.
C'est vrai, très fort. Ouais.
Ouais. Marathon de la presqu'île du Cap Ferret. C'est le golf le matin. Belote et pétanque le dimanche.
C'est un triathlon.
Ouais. Avec une victoire, ouais. Le triathlon de la presqu'île. Et aujourd'hui, marathon, pas de Paris, mais des Paris. Parce qu'il y a du cyclisme, il y a du golf, il y a du tennis, on va se régaler.
Oh là là, c'est génial. Il annonce le sommaire au programme des grandes gueules du sport à 10h sur le ring du rugby. Le choc Union Bordeaux-Bègles, le Toulouse à 16h en quart de finale de Champions Cup. Le stade toulousain a-t-il encore un ascendant sur l'UBB? Vous votez sur le compte XDGG du sport à 10h30. Paul Sexas est devenu au Pays Basque le premier Français à remporter une course à étape élite depuis 19 ans en cyclisme. Punchline du Français qui assume de faire partie des meilleurs. Est-ce qu'il prend un risque sur le buzzer? Finale du Masters 1000 de Monte Carlo en tennis entre Alcaraz et Sinner. Première confrontation de la saison. L'Italien peut prendre la place de numéro 1 mondial à l'Espagnol. Cette finale peut-elle laisser des traces à un mois et demi de Roland Garros? Le zapping, le j'y crois pas et le vestiaire sur la gestion de la colère dans le sport de haut niveau. Daniil Medvedev à Monaco nous inspirait cette semaine. Et puis en fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Aujourd'hui, remportez votre enceinte portable minotée de la marque Nexon. Envoyez sport au 7-32-16 ou appelez le 32-16, touche 4 ou sport au 7-32-16. Avant de se lancer dans l'émission, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur le marathon de Paris, retrouver une personnalité particulièrement importante de l'athlétisme français qui est dans la team RMC Running aujourd'hui. C'est Jimmy Gressier qui est avec nous. Salut Jimmy.
Salut les gars.
Salut Jimmy.
Jimmy, champion du monde du 10 000, on rappelle, recordman d'Europe du 5 km la semaine dernière à Lille. T'es avec la team RMC Running sur le marathon de Paris avec les 60 000 participants. Tu nous racontes ce que t'as fait déjà, Jimmy. On est super content de t'avoir.
Ouais, ben du coup on est parti sur un podcast en courant, donc c'est assez particulier. Je pense que c'est la première fois que ça se faisait. Et du coup on était au milieu de la foule, on est parti dans le SAS 3h15, au début du SAS 3h15. Et puis le but c'était de parler un peu du marathon, de parler un peu aussi du fait que je cours au milieu de la foule avec tout le monde, sans se prendre la tête et tout. Donc c'était assez cool et je me suis arrêté au 8e kilomètre. Et là je suis actuellement dans un café en train de prendre un petit déj. Et là il y a la tête de course. Il y a la tête de course qui va passer là dans 5 minutes à peu près.
Ouais.
Et donc je suis en train de prendre un petit croissant, café.
Ça,
et puis
cool,
je reprends ensuite après avec mon ancien coach qui va passer à peu près au 22e kilomètre et je l'aiderai à peu près jusqu'à la fin. Donc là j'ai une heure de pause et donc c'est café et croissant.
Bon, ça c'est la belle vie ça. Pour le coup, ouais. la petite pause croissant. T'as un conseil pour les runners, Jimmy? Tu parlais du podcast évidemment, RMC Running, à retrouver sur les plateformes de téléchargement. Vous allez voir, c'est du contenu exceptionnel. Hein. T'as un conseil pour ceux qui sont dedans là?
Un conseil déjà, c'était avant la course, c'est d'être bien chaussé, d'avoir les bonnes chaussures à son pied, de pas partir trop vite, de bien s'hydrater pendant la course et de bien s'alimenter. C'est vraiment le conseil de base.
Et au mur des 30 km, il faut penser petit objectif, kilomètre après kilomètre.
Ouais, c'est ça. Il faut avancer petit à petit et puis se concentrer sur ses sensations, essayer de se relâcher un maximum. C'est vraiment le plus important.
Bon, le marathon, ça va devenir un objectif pour toi, parce que tu vas pas être tout le temps en train de prendre le croissant pendant le marathon de Paris, hein.
Bien évidemment que ce sera un objectif, mais pas pour l'instant. J'ai encore au moins 3-4 ans devant moi sur la piste. J'ai envie de continuer à gagner des médailles sur la piste. Je prends beaucoup de plaisir sur la piste, mais ensuite je basculerai sur ma deuxième partie de carrière sur marathon. Mais normalement, ça devrait être après Los Angeles. Donc ouais, j'ai hâte d'y être, mais j'ai encore hâte de faire mes preuves sur la piste.
On a hâte de voir ça. Bon, Jimmy, tu sais que t'es la bienvenue dans les grandes gueules du sport. On veut absolument t'avoir en studio avec David Douillet notamment. On veut faire les retrouvailles. Comme ça, vous allez parler de comment on est champion ensemble. Je pense qu'il faut le faire.
Avec grand plaisir. Ça me va très bien.
Allez, merci. Bah, bon petit déj, hein, Jimmy. Hein, regarde la course passée.
Merci, c'est gentil. Et on écoutera beaucoup.
Évidemment RMC Running à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement. T'aurais fait un podcast toi en faisant du vélo en même temps Jérôme.
J'aurais pu, parce que l'intensité n'est pas la même quand tu roules. Là, ça me rassure de fait qu'il se soit arrêté sur le côté. Ouais. Parce que sinon, ouais, moi, il soufflait le garçon.
Je pensais qu'il était en train de courir, il fumait une clope en même temps. Il s'arrête, tranquille.
J'imagine les gens qui écoutent l'émission en courant ce matin et qui disent ah mince, il a dit qu'il fallait bien manger et bien chausser. Bon, je retourne à la maison chercher une paire de boudasses.
Bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut écouter Ramsey Running avant le marathon de Paris aussi, comme ça vous avez les bons conseils. Allez, les amis, le débat. Du GOAT tout de suite, le meilleur de tous les temps en version française, la chèvre en anglais. Tadej Pogacar a rendez-vous avec l'histoire au départ de Paris-Roubaix.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Aujourd'hui, retraçons l'histoire d'un gamin en or, Tadej Pogacar.
Ce qui a attiré mon attention cette semaine, c'est une interview de... comment il est surnommé le GOAT. Je m'attendais pas du tout à ça.
C'est en Slovénie, proche de Ljubljana, la capitale, dans une famille de classe moyenne que grandit le petit Tadej.
Il n'y a pas à s'inquiéter, c'est un peu comme le ketchup, tu sais, à force de secouer, quand ça finit par couler, ça coule beaucoup.
Dès le plus jeune âge, il montre un certain intérêt pour le sport. Mais c'est son grand frère qui va l'initier au vélo.
Il faut déjà aller titiller le goujon sur les autres grandes courses.
J'ai un dîner chez mes beaux-parents et un stock de chaussettes dépareillées dont il faut que je m'occupe depuis longtemps, donc je vais faire l'impasse.
Les témoignages de l'époque racontent que lors des courses juniors locales, les gens observaient un garçon visiblement à la traîne derrière le peloton.
Il y a un pompon dans le jeu de boule, il y a quelque chose qui va pas.
Est-ce que tu peux démêler le vrai du feu? Tout va bien.
Et se rendaient compte par la suite que c'était le petit Tadej qui rattrapait les autres avec en fait un tour d'avance.
L'an dernier, on a fait suspense jusqu'au départ parce qu'on savait pas s'il allait y aller.
Tout comme un symbole de la carrière qui l'attend.
Tous les terrains conviennent à Tadej Pogacar. On disait à l'instant
n'importe quoi.
C'est très moche.
Ok, dommage, merci. Le GOAT. La
chèvre. Vous savez que je note tout, hein. Y a pas de problème.
Tadej Pogacar. T'es rancunier, toi?
Les coups seront rendus
Attention, j'ai peur.
Avec la même intensité.
Tadej Pogacar va-t-il terminer le jeu et remporter le seul monument qui manque à son palmarès? C'est la grande question de la 123e édition de Paris-Roubaix aujourd'hui. Départ 10h50, arrivé vers 16h30. Vous ne raterez rien sur RMC qui délocalise son antenne au Vélodrome de Roubaix avec Christophe Cessieux, Jérôme Coppel et Maria Azé au commentaire. 30 secteurs pavés, 250 km à dompter pour Poggi. Déjà quadruple vainqueur du Tour, double champion du monde et vainqueur de 12 monuments. Van Der Poel, Van Aert, Philipsen sont là pour briser son rêve aujourd'hui. Les GG, je vous pose la question. Pogacar, au départ de Paris-Roubaix, est-ce une course pour devenir le plus grand? Jérôme Pinot.
Ça, il doit passer par là, oui.
Pascal Dubras.
Non.
Julien Benneteau.
Comme Jérôme, il doit passer par là.
Simon Dutin.
Comme Pascal, non.
On vous attend au 32-16 et sur WhatsApp au 06 12 424 424 pour réagir. Maria Azé va donc vous commenter la course sur RMC. Salut Maria.
Salut Georges, salut tout le monde.
Salut Maria.
Les mecs attaquent de tellement loin maintenant qu'il faut être prêt à commenter dès le départ, hein, à 10h50 pour Maria. Toute l'attention tourne autour de Pogacar avant le départ, Maria?
Bah en tout cas, toute l'attention du public hein, sur le mythique carrefour de l'arbre hier, tous espéraient apercevoir le Slovène et pour eux, le favori est très clair.
Pogacar au-dessus du lot. Quand on voit ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est exceptionnel. Hein.
Moi, je suis toujours pour le challenger. Pogacar est challenger sur le Paris-Roubaix. Il n'a pas encore gagné, il a failli gagner l'année dernière.
Le plus gros là, du chantier, c'est Roubaix. Et après, il a totalement le champ libre pour pouvoir aller gagner les 5.
Les 5, ce sont les 5 monuments cette saison, ce qu'aucun coureur n'a jamais fait dans l'histoire. Pogacar a déjà remporté Milan-San Remo et le Tour des Flandres. Et on sait que Liège et la Lombardie sont quand même plutôt ses terrains. Avant la course et après être allé reconnaître le parcours plusieurs fois depuis le début de saison, le Slovène est confiant.
C'est l'une des plus grandes courses, une des plus belles et une des plus difficiles. L'année dernière, j'ai vu que j'étais capable de courir pour la victoire.
Mais attention à Mathieu Van Der Poel, pour beaucoup il reste quand même le grand favori sur un parcours où Tadej Pogacar n'a pas les pourcentages du vieux Coirmont comme au Tour des Flandres pour le lâcher. Le Néerlandais veut remporter son quatrième Paris-Roubaix de suite.
Je pense que j'ai un niveau très haut pour moi, personnellement, et travailler très dur pour y arriver, mais s'il est encore plus fort, c'est simple et je vais juste espérer que je vais avoir une journée vraiment, vraiment bien en dimanche pour le battre.
Alors autour, tout le monde s'extasie autour de ce duel, notamment Christian Prudhomme, le patron du Tour de France.
On s'attend à un duel formidable. C'est d'ores et déjà une édition qui promet plus que quelque édition que ce soit depuis 50 ans. Ou Pogacar qui remporte le dernier monument qui lui manque. Ou Van Der Poel qui rejoint Roger De Vlaeminck et Tom Bonnen avec 4 victoires, mais étant le premier à gagner 4 fois consécutivement. Quoi qu'il en soit, on s'attend bien sûr à un combat des chefs.
En sachant que sur Paris-Roubaix, c'est 55 km de secteur pavé, un ennui mécanique ou une chute peuvent vite renverser la course. Ne pas enterrer quand même trop vite non plus un Wout Van Aert ou un Mats Pedersen, mais bien sûr, tous les regards seront rivés sur Tadej Pogacar, notamment lors de son passage dans le secteur de Pontibo, où le Slovène était tombé l'année dernière.
Merci Maria. Ça, c'est le goût, effectivement, peut-être à l'arrivée. Merci Maria, on te retrouve tout à l'heure et on retrouvera aussi Christophe Cessieux et Jérôme Coppel dans un instant du côté de Roubaix. Pogacar, est-ce une course pour devenir le plus grand? Jérôme, tu dis plutôt oui.
Bah oui, parce que si on veut faire de lui le plus grand coureur de tous les temps, ça veut dire qu'il faut qu'il égalise et qu'il soit au-dessus du seigneur de notre maître à tous, Eddy Merckx. Et pour cela, il faut qu'il gagne Paris-Roubaix. Pas une fois, pas deux fois, il faut qu'il gagne au moins trois fois.
Ah
et
oui,
donc, pour faire mieux que Merckx. Et donc, il doit évidemment passer par cette course-là. Et puis, aujourd'hui, dans l'ère moderne et dans ce que Pogacar est en train de mettre en place, toutes les autres courses, on sait que c'est pour lui quasiment facile de gagner. Là, il a quelque chose qui est très compliqué à faire, c'est lâcher pour ce qui est pour moi de l'ère moderne le plus grand des spécialistes pavés, Mathieu Van Der Poel. Et ça, sur Paris-Roubaix, ça va être très compliqué. Alors, il doit passer par là pour devenir le plus grand de tous. Et puis après, il enfilera les perles parce que aller gagner une Vuelta, gagner 5, 6, 7 Tours de France, pour moi, c'est à sa portée.
C'est le défi de sa carrière.
C'est l'une des dernières courses qui peut éventuellement lui échapper pendant très longtemps. Maintenant, il a prouvé l'an dernier qu'il était capable de gagner cette course. Il faudra lâcher Mathieu Van Der Poel. Il faudra aujourd'hui faire la différence, ou on ne sait pas. Mais c'est sûr que cette course-là, il doit la mettre à son palmarès, et pas qu'une fois, pour qu'on puisse enfin dire il est plus fort qu'Eddy Merckx.
Pas qu'une fois, encore faudrait-il qu'il reparticipe si jamais il gagne. Hein, parce que par exemple, il ne fera pas
par exemple,
Sanremo.
Parce que Sanremo, voilà, très donc, clairement, si on compare le palmarès de Poggi à Eddy Merckx, il manquera des victoires sur Sanremo s'il n'y retourne pas.
Bennett ?
Moi, je suis d'accord avec Jérôme. Tu veux que je...
Bah, c'est alors... le principe de donner la parole. Ouais.
Non, je croyais que tu voulais...
Vas-y, tu peux développer.
Je suis presque d'accord avec Jérôme. Il y a un petit bémol, c'est que pour moi, il n'a pas besoin de gagner trois fois Paris-Roubaix pour devenir le plus grand. C'est-à-dire que s'il gagne six Tours de France et qu'il a Paris-Roubaix à son actif, il dépassera Merckx. Et d'autant plus s'il le fait aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, s'il gagne Paris-Roubaix, il gagne les cinq monuments de suite. Et personne ne l'a fait. Merckx a gagné les cinq monuments. Mais là, lui, il peut faire les cinq de suite sur deux ans.
Oui, parce que là, on parle beaucoup du fait de le faire sur une saison. Mais là, il peut le faire d'affilée.
Voilà,
on rappelle les monuments. Liège, Bastogne-Liège, Tour de Lombardie, Tour des Flandres, Milan-San Remo et Paris-Roubaix.
Voilà. Donc si cet après-midi, il gagne, avec ce début de saison qu'il a, qu'il enquille son cinquième Tour de France derrière. Derrière, comme dit Jérôme, il n'aura plus qu'à aller enquiller une Vuelta, un truc, etc. S'il fait les cinq monuments,
vite,
soit
vite,
de suite.
La concurrence ouais, d'ailleurs arrive.
Soit s'il fait les cinq monuments, soit de suite, soit dans la même année, et qu'il bat le record du nombre de victoires dans le Tour de France, il est déjà double champion du monde, il a déjà tout gagné. Pour moi, ce sera le plus grand. Donc oui, cet après-midi, c'est une course. On parle pour devenir le plus grand, c'est un gros passage pour devenir le plus grand.
Il est sur le chemin.
Oui.
En fait, je crains ne pas avoir compris la question. Comment dire, il gagne aujourd'hui le Paris-Roubaix, c'est pas le plus grand pour autant. Parce que le plus grand jusqu'alors, c'est Merckx.
Oui.
Et vous oubliez aussi, parce que bien entendu, le coureur Pogacar est le meilleur coureur contemporain. Il a une classe incroyable. Il va certainement dépasser Merckx, vous l'avez très bien dit. Encore faut-il qu'il continue, qu'il ait un peu de longévité dans dans sa carrière de cycliste professionnel, ce qui semble quelquefois ne pas être son souhait. Il en parle souvent, je reviendrai pas sur Milan-San Remo par exemple. S'il venait à gagner le Paris-Roubaix, est-ce qu'il reviendrait? Ça, personne ne le sait, s'il le gagnait aujourd'hui. Tandis que Merckx, il a gagné Paris-Roubaix par exemple 3 fois. Il a encore de l'avance, vous l'avez dit, au Tour de France, puisqu'il en a gagné 5. Donc, cette course Paris-Roubaix, qui manque au palmarès de Pogacar, lui permettra de prétendre dépasser Merckx, à condition qu'il continue à enfiler les victoires et qu'il ne s'arrête pas maintenant, ouais, par exemple.
Mais là, en fait, on regarde que les palmarès et les chiffres, en fait. Est-ce qu'il y a alors, que ça qui compte?
Moi, c'est la question.
Parce que gagner Paris-Roubaix en tapant Van Der Poel, avec tout ce qu'il a fait, avec ce meilleur qu'ancien le champion du monde, il y a la forme pour devenir le plus grand. Jordan est peut-être plus grand que Bill Russell en NBA,
mais je pense pas que Merckx n'avait pas de concurrence.
Non, mais surtout
ce qui handicape aujourd'hui la comparaison, c'est que c'est il y a bien longtemps Merckx. Donc faut pas toujours être dans l'immédiateté, autrement il y aurait jamais de plus grand. Alors le plus grand, ce serait le contemporain.
Il y a l'émotion que ça procure aussi, l'émotion que ça procure.
Merckx procurait des émotions, vous pouvez surtout sur lui.
À l'époque, quand Merckx gagnait Paris-Roubaix, il n'y avait pas la même concurrence sur Roubaix qu'il y avait sur certaines autres courses. Parce que sur Roubaix, il y avait un énorme monsieur, un très grand champion, qui s'appelait Roger de Vlaminck, monsieur Paris-Roubaix.
4 victoires.
Qui était l'égal de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui être Mathieu Van Der Poel.
Van Der Poel peut le rejoindre en cas de succès.
Et à chaque fois, c'était du face à face. Et moi, j'aimerais que, justement, pour pouvoir parler de plus grand, même si c'est très compliqué, ben, il faudrait que Poggi gagne 3 fois devant Mathieu Van Der Poel.
Il faudrait que Poggi gagne aujourd'hui dans le vélodrome. Il arrive avec Van Der Poel et il le règle au sprint. Et si la victoire est iconique, peut-être que aussi ça participera à ça. Simon, toi, t'es attaché à l'histoire du sport en général. T'es sensible à ça et à ce débat qui est un vrai débat de fans de sport, hein. Voilà. On va pas se le cacher. C'est pas le débat le plus important de l'histoire, mais c'est vraiment sur l'amour qu'on a pour les histoires, ce que ça peut procurer.
Oui, et je suis pas en train de te dire qu'il deviendra pas le plus grand s'il gagne aujourd'hui, mais je pense qu'il n'a pas besoin de ça pour être un jour le plus grand, parce que je rejoins Jérôme sur la prophétie selon laquelle la Vuelta, il finira par la gagner, que des Tours de France, il en gagnera peut-être plus que 5.
Est-ce qu'il en a envie?
Et en a-t-il envie? Oui, bah, c'est des bonnes questions à se poser, ça, quand t'es coureur cycliste, mais... non, je pense qu'il sera, quoi qu'il arrive, le plus grand, parce que en termes de préparation, en termes de vitesse, de puissance, d'effort physique, de densité, de concurrence, je pense que c'est encore plus difficile de dominer comme Pogacar le fait qu'à l'époque où Eddy Merckx le faisait. Donc, dans mon logiciel, pour moi, il est déjà programmé pour être le plus grand. Bernard Hinault, ça l'empêche pas d'être dans la discussion. Il a jamais gagné Milan-San Remo. Bernard Hinault, Eddy Merckx a jamais gagné Paris-Tours, qui était une énorme course.
Dans la discussion, t'es d'accord, mais il est derrière Merckx. Si on parle du plus grand.
Il y a des gens pour qui Bernard Hinault
Merckx, c'est 19 monuments.
Hein, c'est une question de sensibilité aussi, je pense.
Il a jamais couru autour des Flandres. Bon, personne vient lui reprocher.
Juste rappel quand même pour nos auditeurs, Merckx, 19 monuments, 12 pour Pogacar actuellement, 3 fois champion du monde, donc une fois de plus que Pogacar actuellement. 5 tours, 5 Giro, une Vuelta, 64 victoires d'étapes sur les grands tours.
Si tu vas par là, Eddy Merckx n'a gagné que 3 fois Paris-Roubaix, là où certains lui prédisaient qu'il pourrait en gagner 7 ou 8. Et lui-même, en se replongeant dans des déclarations de lui, te dit qu'il aurait pu faire mieux. Donc Pogacar, moi je ne suis pas loin de penser que Paris-Roubaix pourrait être sa némésis, sa malédiction. Et je vais vous dire quelque chose, je pense que ça rendrait la légende de Pogacar encore plus belle s'il venait à ne jamais gagner Paris-Roubaix. Qu'il y ait ce petit accroc, tu sais, lorsqu'on racontera l'histoire en disant « Ah, il y a une course qui lui a résisté, il a dominé tout le monde partout, avec le maillot arc-en-ciel, avec le maillot jaune, le maillot rose, le maillot rouge, il a battu tout le monde. Mais Paris-Roubaix va savoir une glissade, une chute, une erreur d'inattention, il a jamais... » Et je pense que tout supporter fan de Pogacar, sa légende serait encore plus belle si jamais il ne remportait jamais.
S'il dépasse pas Merckx dans le nombre de Tours de France, ça l'empêchera de devenir le plus grand.
Il sera quoi qu'il arrive le plus grand.
Et tant mieux, parce que c'est deux airs différents.
Pour moi, il sera quoi qu'il arrive le plus grand.
C'est comme au tennis, à une époque, il y avait les plus grands champions, ils n'arrivaient pas à gagner les 4 grands chelems. Il y avait McEnroe. Roland Garros lui résistait. À un moment donné, on a eu très peur pour Federer jusqu'en 2009, qu'il n'y arrive pas à gagner Roland. Aujourd'hui, le sport est passé dans une telle autre dimension dans tous les sports, que si tu veux prétendre au titre du plus grand, ils sont obligés de pouvoir gagner partout.
Oui, mais Jean, je l'ai rappelé, même alors, avec Michael Jordan, même, ça reste éminemment subjectif, en fait.
Regardez,
moi, j'ai pas de titre. Jamais aucun titre ne sera décerné officiellement.
Bien sûr. Certains disent que Maradona est le plus grand en foot, alors qu'il a gagné moins de Coupe du Monde que Pelé, par exemple, les amis.
Il y a l'histoire qui va avec.
Non, mais ce qu'il faut collectif, c'est très dur de...
Il ne faut surtout pas oublier aussi. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que, comparer les époques, il faut comparer les concurrences. On peut pas comparer un Roubaix de l'époque, quand Jackie Durand a gagné le Tour des Flandres, Jackie est le dernier vainqueur français du Tour des Flandres, c'est pas lui faire.
Il y avait France, personne.
Il le sait. Non, c'est pas qu'il y avait personne. C'est qu'il y avait pas des mots comme il y a aujourd'hui.
Mais à l'époque, il y avait pas les oreillettes.
La concurrence sur un Roubaix,
sur un Tour des Flandres, était la même. Ce qu'il faut pas comparer, c'est les performances. Les watts, la vitesse, les moyennes.
Mais en revanche, dans les concurrences, dans les...
Non, mais il le dit lui-même, sur un parcours comme celui d'aujourd'hui, il n'aurait pas gagné, il le sait. Mais les concurrents au départ étaient tous préparés de la même façon.
Avec Jérôme, s'il te plaît, réponds. Est-ce que Pogacar est le meilleur coureur du monde? Le plus grand coureur du monde?
Est-ce une course pour devenir le plus grand Paris-Roubaix aujourd'hui, départ à 10h50. Évidemment, on va aller sur place dans un instant retrouver Christophe Cessieux et Jérôme Coppel. Et on vous attend, vous aussi, au 32-16 sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport avec Pascal Duprat, avec Jérôme Pinault, avec Simon Dutin, avec Julien Beneteau. On va aller à Roubaix dans un instant. On se pose la question, est-ce que Pogacar à Roubaix, c'est une course pour devenir le plus grand? C'est le monument qui manque à son palmarès. Tiens, vous savez qui va regarder Paris-Roubaix aujourd'hui?
Christophe Cessieux.
Bah oui,
Eric Salio.
Mais non, LeBron James, écoutez-le.
MVDP is a different breed. That's what separates the legends from the rest. The Hell of the North is just not a race. It's a test of will. Go be great. Go make history. The world is watching for a reason.
C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a LeBron James, Hell of the North. Non mais attendez, il parle de l'enfer du Nord. Bah je pense qu'il a un petit il doit avoir le même sponsor que Mathieu Van Der Poel.
Les 24 heures du Mans il y a deux ans, là cette année c'est Paris-Roubaix.
Non mais je sais pas, mais donc un GOAT qui envoie un message comme ça pour soutenir Mathieu Van Der Poel. Eh ben là, la question se pose.
D'accord.
Non, mais vous vous rendez compte quand même. C'est l'une des plus grandes stars du sport mondial qui parle de l'enfer du Nord.
MVDP.
Hell of the North. Ah, tout de suite, ça met le truc dans un autre univers.
Alors, c'est Christophe Cessieux qui nous parle de l'enfer du Nord, c'est pas pareil. C'est
bonjour, Christophe Cessieux, Jérôme Coppel.
Allez,
Georges, salut à tous.
Qu'est-ce que c'est que cette ville attaque, là, de bas niveau de Julien Beneteau?
Et comme t'es pas avec moi en studio, que je ne peux pas prendre des stylos dans la tête, j'en profite.
Bon les gars, vous serez évidemment aujourd'hui au Vélodrome de Roubaix là. J'imagine que vous espérez voir arriver les deux champions Van Der Poel et Pogacar pour se mettre des tatanes dans les deux derniers tours du Vélodrome. La question qu'on se pose, c'est que est-ce que c'est une course pour être le plus grand? Est-ce que vous sentez, vous, dans la course là, dans ce qui va entourer la course aujourd'hui, que cette question-là, elle est là quand même, Christophe et Jérôme?
Bah oui, parce que l'écran est fantastique, c'est la reine des classiques pour le roi Pogacar. Parce que t'as quand même une opposition de style incroyable, l'autre qui peut égaler De Vlaeminck, Boonen dans la légende, et l'autre qui peut devenir le plus grand, enfin presque le plus grand derrière Eddy Merckx. Il y a toutes les conditions sont réunies pour faire de ce Paris-Roubaix vraiment la reine des courses et pour sacrer Pogacar. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que d'abord parce que chacun a son goat, hein, et j'en ai marre de cette question qui revient tout le temps.
Mais toi, c'est Marc Madiot.
Est-ce que lui est meilleur que machin? Est-ce que moi, je suis né au cyclisme avec Eddy Merckx. Et Eddy Merckx, il restera pour moi toujours le GOAT. Ces images épurées où on le voit avec son maillot arc-en-ciel sur fond blanc dans le Giro, ses victoires incroyables, cette classe qu'il avait sur le vélo, pour moi, elles sont ancrées au fond de ma tête et elles resteront toujours là. Chacun a son GOAT, chaque génération a son GOAT, c'est générationnel. Donc voilà, donc c'est une petite guéguerre, mais effectivement, Pogacar, c'est un immense champion. Mais comme je disais hier, moi j'espère qu'il va pas gagner aujourd'hui. J'espère qu'il va continuer à se faire taper par Van Der Poel. Comme ça, il reviendra l'année prochaine et l'année d'après pour qu'on assiste à un duel de légende. Mais c'est fantastique. Tu parlais de LeBron James qui parle de ce Paris-Roubaix. C'est 10 pages aujourd'hui dans l'équipe. Enfin, je veux dire, ça prend
une dimension, le cyclisme en ce moment est en train de prendre une dimension entre Sexas d'un côté et Paris-Roubaix de l'autre, qui est fantastique. Moi, je vis un rêve éveillé.
Ah, mais les gars, moi, je peux vous dire, j'ai reçu plein de messages de personnes qui habituellement ne suivent pas le vélo et qui, déjà avec Paul Sexas, on en parlait tout à l'heure, ont pris le train, mais là, sont en train de rentrer dedans aussi, pris par l'histoire de Pogacar et de sa possibilité de rencontrer l'histoire aujourd'hui. Jérôme Coppel, pour toi, ça peut être le plus grand.
Oui, pour moi c'est déjà le plus grand. Alors je rejoins Christophe sur le fait des générations. Bien sûr que je suis beaucoup plus jeune. Je parle pas que je sois beaucoup plus beau aussi que Christophe Cessieux, mais je suis en tout cas beaucoup plus jeune que lui. Donc Merckx, ça me parle quand même beaucoup moins. Même si je suis passionné de vélo et que je connais l'histoire, pour moi entre la densité qu'il y a maintenant, la manière dont Tadej Pogacar domine le cyclisme actuel, alors qu'on a des ultra spécialistes maintenant, on a des ultra spécialistes des classiques, des grands tours. Il arrive quand même à dominer son sport sur tous les terrains, et surtout pour moi le fait qu'on ait cette discussion là et ce débat alors que Tadej Pogacar est peut-être au milieu de sa carrière, ça montre qu'il est déjà quasiment au-dessus, parce qu'on compare son palmarès avec celui d'Eddy Merckx, mais Eddy Merckx a terminé sa carrière. Donc en fait ce débat on devrait l'avoir à la fin de la carrière de Tadej Pogacar. Et simplement le fait d'en parler, c'est que déjà il est le plus grand. Alors oui, personnellement il est déjà le plus grand. S'il gagne aujourd'hui, pour moi il a fini le jeu, il aura quasiment tout gagné, et c'est une question de saison avant qu'il aille gagner une Vuelta, qu'il se mette un défi de gagner les trois grands tours dans la même année ou je sais pas quoi, parce qu'il faudra qu'il se trouve un défi énorme parce qu'il aura tout gagné. Donc oui, pour moi il est déjà le GOAT, et demain aujourd'hui pardon, s'il gagne cette course, c'est le point final à ce débat, quoi.
Sauf que le pont entre les deux générations, GG, je pense que c'est quand même ce Paris-Roubaix. S'il ne l'était qu'un coureur de grande course et de course type ardennaise, on n'aurait peut-être pas ce débat, parce qu'on se dirait bon, Roubaix c'est à part et c'est pour les spécialistes. Sauf que lui, il nous a déjà montré dans la première participation qu'il était capable de la gagner.
Et en fait, il a remis au goût du jour l'idée du coureur absolu.
Voilà, il faut pas séparer par le temps ces générations, parce que c'est plus le même vélo, effectivement. Mais par contre, je pense que pour classer Tadej parmi les Merckx et autres, parce que tu parles d'ultra spécialiste, et là je rappelle à la mémoire de Christophe, à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait De Vlaeminck en face de Merckx, et De Vlaeminck était un maestro du pavé comme l'est aujourd'hui Van Der Poel, et il fallait le battre. Et moi je pense que à ce palmarès, si Tadej ne gagne pas un jour Paris-Roubaix, il va manquer un petit truc quand même.
Mais il le gagnera. Il le gagnera. Et s'il gagne Paris-Roubaix,
qu'un jour il gagne Paris-Roubaix, chapeau. Hein.
Quand il a un objectif,
bien sûr.
Que,
mais oui,
arrivé,
on est sûr.
D'accord.
Et si, bien sûr, d'ici la fin de sa carrière, il gagnera un Paris-Roubaix, je suis quasi sûr.
Après-midi, la télé.
Regardez. Et s'il gagne Paris-Roubaix, et s'il gagne 6 Tours de France? Parce qu'il va gagner plus de Tours de France qu'Eddy Merckx.
Ah oui, ça oui.
Donc là, alors là, c'est quoi? Sur quoi on va le comparer? Oui, mais il a gagné moins de Giro. Oui, mais il a gagné moins de Vuelta. Oui, mais il a moins de monuments.
Toi, tu veux attendre la fin de sa carrière. Moi, je veux attendre la fin de l'antidopage aussi.
Oui, mais aussi.
Ce qui peut se passer, parce qu'un coup, il a gagné.
Mais Eddy Merckx, c'était pas tout blanc non plus.
Non.
Ben oui. Alors,
mais moi, ce que je dis, c'est
que les cyclistes se sont dopés. Arrêtez.
Moi, ce que je dis.
Pour revenir sur ce que je sais plus qui a employé le terme de cycliste total, de coureur total. En fait, Merckx et Hinault ont gagné 5 Tours de France, mais depuis eux, ceux qui gagnaient les grands tours ne gagnait pas autant de classiques.
Mais oui, en fait, c'est pour ça.
Et en fait, c'est Pogacar, il remet ça au goût du jour.
On pensait que dans le cyclisme mondial, ce n'était plus possible.
Voilà, mais exactement.
C'est d'autant plus fort. Mais Indurain et compagnie, les vainqueurs de Grand Tour, Vingegaard, même si cette année, Vingegaard est... Mais
il n'a pas gagné le classique.
Oui, c'est vrai qu'il n'a pas gagné le classique. En fait, il remet ça au goût du jour. C'est-à-dire qu'il est plus fort ou aussi fort que Van Der Poel sur les pavés et autour des Flandres. Et il est plus fort que les spécialistes des grands tours.
C'est pour ça qu'on arrive à les comparer avec Merckx et autres.
Exactement.
Et oui, en fait,
on n'avait plus jamais vu ça, exactement, depuis Hinault et Merckx.
C'est en ça que moi, je rejoins Jérôme, parce que Jérôme a parlé de la densité, a parlé de la difficulté à gagner dans cette ère moderne. Alors, moi non plus, je n'ai pas connu la domination de Merckx. Mais sans sans prendre le risque de blasphémer, je pense que la domination de Pogacar, elle est encore plus impressionnante que ce qu'a réussi à accomplir Eddy Merckx à une époque.
Pas sûr.
Où, bah, non, pas sûr. C'est mon avis.
Tiens, Jérémy au 32-16. Jérémy au 32-16.
Les spécialistes qui disent oui, les vieux qui disent pas sûr.
Dans les grandes gueules du sport, tu nous appelles de Belfort. Salut Jérémy.
Salut les grandes gueules.
Salut Jérémy.
Tu as quoi? Tu as 36 ans, c'est ça, Jérémy? C'est important, je pense, là, dans la débat générationnel que l'on a.
Ouais, 37. Ouais.
Voilà, 37 ans. Non, mais franchement, mais Christophe a raison quand il a parlé. C'est générationnel, chacun a son goat. Pour toi, c'est une course pour devenir le plus grand aujourd'hui, Pogacar. Tu nous écoutes depuis tout à l'heure?
Oui. Après, voilà, comme tout le monde dit, c'est une question de génération. Hein. Je prends le foot, moi, c'est Zidane. Après, j'ai pas vu jouer Pelé, et ainsi de suite. Donc, voilà. Et là, c'est pareil au vélo. Alors après, moi, quand j'étais plus petit, c'était Armstrong. Mais on va l'oublier dans le débat. Et autrement, bah oui, Poggi, avec tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, ça peut quand même être le seul à avoir les 5 monuments en même temps. Plus tenant du Tour de France, plus tenant du titre mondial. Il n'y a personne qui l'a fait dans le cyclisme. Et donc forcément, de le voir gagner aujourd'hui, je pense que tout de suite, il se place... si c'est pas premier pour certains, mais c'est juste derrière le grand Eddy Merckx des années 70, quoi. Mais pour moi, question de génération, oui, c'est le meilleur, et en plus il remet un cyclisme qu'on n'a pas vu depuis des années et des années à pourrir devant, ouais, à partir à l'attaque sans se soucier du rôle de favori ou pas.
Non, mais t'as raison, en fait, Jérémy. L'un des plus grands exploits de Pogacar, peut-être, c'est qu'il a ramené aussi des gens à regarder le vélo, justement, parce que c'était souvent les longues processions. Et en tout cas, maintenant, avec ses possibilités d'avoir des courses qui commencent à 100 km de l'arrivée, non, mais c'est vrai, il y a plus de spectacles.
Oui, ton dernier argument, c'est oui et non.
Oui, parce qu'il est tellement dominant que
exactement,
certains vont dire on regarde plus.
À 50 bornes tout seul et que c'est fini, qu'il n'y a personne, ok. Là, c'est. Non, sur certaines Ardennaises ou des choses comme ça.
Ouais, parce que sur Roubaix, ça arrivait. Hein.
Et quand il y a Van der Poel ou quand il y a toi, je veux dire, ce qui est fantastique dans le cyclisme aujourd'hui, c'est là où tu dis il ramène du monde à devant la télé, c'est que la semaine dernière pour le Tour des Flandres, on parle des quatre fantastiques qui sont là avec Evenepoel et avec
Van Aert.
Et avec Van Aert. Et qu'à un moment donné, au premier passage du Vieux Quarrément, ils sont tous les quatre les uns derrière les autres et ça attaque et tu dis, et ça c'est fantastique parce que ça a annoncé, les mecs assument, ils y vont et après ça se bagarre.
Par contre, tu vas avoir la même chose aujourd'hui. Hein.
Oui, voilà, enfin, exactement. Enfin,
Julien, moi, je pense que les gens, ils allument quand même la télé pour voir Pogacar, même s'ils présument qu'il va rincer tout le monde.
Ils veulent voir s'il va perdre.
Indurain, il a gagné 5 Tours de France, mais Indurain, Rominger, Chiapucci, ils n'y allaient pas sur Paris-Roubaix. Ils n'allaient pas jouer la victoire. Mais ouais, mais c'est aussi pour ces gens-là et les gens qui dominent autour de France que tu allumes la télé.
Il faut bien comprendre, et c'est pour ça que Paris-Roubaix nous scinde en deux, parce que Roubaix est la course ultime. En termes de qualité et de spécificité, qui est à l'opposé total d'un grand tour.
Oui, voilà,
donc c'est
ça.
Pour ça que c'est d'autant plus mis en valeur, et surtout que c'est incroyable, et il faut des qualités tellement complètes que ça en fait le meilleur coureur de la planète.
Départ à 10h50 du Paris-Roubaix, évidemment, avec un rendez-vous pour l'histoire, quoi qu'il arrive, pour Van der Poel ou Pogacar. Et alors, si un troisième larron s'invite dans l'histoire, bravo à lui. Voilà le débat du GOAT. Christophe Cessieux, Jérôme Coppel et Maria Azé. On vous retrouve évidemment tout au long de la journée dans l'Intégral Sport. Passage à la Trouée d'Arambert vers 14h30, c'est ça?
14h30 effectivement pour la Trouée d'Arambert et ensuite à partir de 15h écoutez le programme quand même. D'un côté, on aura à 16h un peu plus tard Dupont face à Biel-Biarré. Oh, on aura quand même Pogacar face à Van der Poel et Alcaraz face à Sinner. Excusez du peu hein, mais je pense que là on a quand même le dimanche de l'année, ce sera cet après-midi sur AMC.
Et c'est le programme de vos grandes gueules du sport également ce matin. À tout à l'heure les amis, évidemment, pour vivre tous ces moments d'émotion en direct. Allez, dans un instant, le zapping. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Dans une sacrée journée sportive, on en a parlé il y a quelques instants avec ce Paris-Roubaix, notamment Paris-Roubaix féminin aussi, avec Pauline Ferrand-Prévot qui, on l'espère, va aller chercher le doublé. On suivra ça sur notre antenne. Sur le ring dans un instant, le Stade Toulousain a-t-il encore un ascendant sur l'UBB? Match à 16h. On vous attend sur le compte X notamment pour voter. Tout de suite, les GG, le zapping.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Les amis, je m'en fous pas. Près de 60 000 coureurs, on l'a entendu avec Jimmy Gressier, donc ont pris le départ de la 49e édition du marathon de Paris, Bennett.
Je m'en fous à part pour Max Abolin.
On va en parler dans un instant. C'est notre producteur qui est en train de courir. Simon,
il y a autre chose aujourd'hui.
Je m'en fous. Jérôme,
moi je m'en fous pas parce qu'il y a Max Abolin et Céline Richard, mon ami, qui est en train de lutter contre le temps.
Pascal.
Ben moi je m'en fous pas pour les raisons que tu cites, mais aussi parce que j'ai un pote qui le fait et il m'est arrivé de l'entraîner pendant 3 ou 4 mois.
C'est vrai?
Oui.
T'as couru avec lui,
j'étais en VTT et lui
électrique.
Il courait.
T'étais son lièvre.
Électrique
quoi.
En plus.
C'est incroyable.
Électrique.
Faut que tu viennes derrière le running, nous raconter ça la prochaine fois. Avec un tiers de participantes féminines et des coureurs de plus en plus jeunes, hein, ce qui prouve la folie autour de la discipline en ce moment. Donc ce marathon de Paris s'est lancé depuis 8h30 ce matin. Alors il fait partie de la team RMC Running et c'est surtout, donc vous l'avez compris, le producteur des grandes gueules du sport qui est en course en ce moment. Maxime Abolin est avec lui.
Allez Max.
Comment ça va les gars?
Mieux que toi.
Mieux que toi visiblement. Non mais raconte-nous. Raconte-nous. Là, raconte-nous où est-ce que tu en es, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a autour de toi?
Écoute, là je vais sortir bientôt du bois de Vincennes. On est quasiment 20e kilomètre. Donc pour l'instant on est bien. J'ai eu la chance d'être avec Benoît, Johan Durand et Jimmy Gressier. Pendant les 10 premiers kilomètres, c'est la folie. Tout le monde nous encourageait. Bon, maintenant j'ai récupéré Romain qui est mon pacer. Il y a moins de monde qui nous encourage quand même.
Alors là, on est en train de te suivre. Hein. Vous pouvez suivre tous vos potes, d'ailleurs, avec la possibilité de géolocaliser sur le site du Marathon de Paris. On vient de voir, donc, tu viens de passer les tu te rapproches du 20e kilomètre.
Je vais le dire.
Non, mais voilà, je sais, mais excusez-moi, les gars.
Est-ce qu'il s'est arrêté de manger un croissant aussi avec.
Il est en train de lui poudrer son marathon. On est en train de le faire parler en courant. Il va choper un point de côté. Il va aller au 23e kilomètre. Il est cuit. Il va aller.
Non, mais respectez. C'est ton premier marathon. Ouais Pascal, dis-nous.
Max, t'as les bonnes chaussures ou t'as des sabots? Ça fait du bruit là.
Ah non mais non, je suis en congé.
Non mais comment on aborde la dernière moitié de course, Max? Ton premier marathon, comment t'as préparé ça?
Alors je t'avoue, je sais pas trop. Je pensais que j'allais arriver bien près là. Je suis moins près que ce que je pensais. Donc on va voir.
Ah. Ouais, fais confiance à ton mental, Max.
Allez, bon courage, Max. Évidemment.
Allez, et à finir.
Ouais, dis-nous.
La première réponse des jeux, c'est 27.
La réponse des jeux, c'est 27. C'est lui qui a fait partie du quiz, hein, je vous préviens. Allez, Max, on entend les encouragements derrière. On encourage les 60 000 coureurs du marathon de Paris à aller jusqu'au bout. Vous savez que 97% des partants vont au bout. Hein. L'année dernière, on a vu ça, donc ça prouve.
C'est presque comme les gagnants au loto.
Ouais.
C'est 100% des gagnants qui ont joué.
Ou les candidats du bac. Du baccalauréat.
Ouais,
c'est vrai. Je savais pas. Bah, c'est incroyable, on apprend plein de trucs ce matin. Ouais. Allez, on zappe, les amis. Je m'en fous pas. En rugby, Toulon crée l'exploit à Glasgow et rejoint la demi-finale de la Champions Cup. Simon.
Je m'en fous pas.
Pascal.
Je m'en fous pas.
Jérôme.
Je m'en fous pas.
Bennett.
Ouais, je m'en fous pas.
Toulon a signé une super performance en s'imposant à Glasgow hier 19-22. Un exploit qui envoie le RCT en demi pour la première fois depuis 2015. Ils affronteront le Leinster là-bas. Pierre Mignoni, le manager du RCT, c'est plus qu'une simple victoire.
Là, de gagner un quart de finale, je te donne aucun trophée. On a gagné le plus important, c'est trouver notre groupe. Pas notre équipe, notre groupe. Parce qu'il y a des joueurs qui ont travaillé beaucoup toute la semaine. Il y a des mecs que j'ai pas mis dans les 23, qui méritent aussi d'y être, qui sont très proches les uns des autres. Tu le sais, c'est la règle. Moi, je suis content essentiellement pour ça. Et aussi pour nos supporters qui ont beaucoup souffert avec nous. On n'a rien gagné. On aura une demi-finale à jouer, ça on le sait. Mmh.
Pascal, tu avais parlé après le quart de finale d'un match fondateur. Ils avaient gagné difficilement alors qu'ils étaient dans une mauvaise passe. Il se passe un truc à Toulon ?
Mais en tout cas, le match d'hier est de meilleure facture que celui de la semaine dernière où ils gagnent sur le fil. Bon, il y a une image qui m'a marqué, plusieurs images. C'est chaque fois qu'il y avait un gros plan sur Pierre Mignoni, je le trouvais serein. Ça tranche avec son visage il y a quelques semaines. Donc il est rasséréné. Et tant mieux. Voilà. Et bravo à eux.
Bennett?
Non, énorme exploit. Je crois que ça faisait presque un an que Glasgow n'avait pas perdu
c'est
chez eux.
Ouais, c'est énorme en face.
C'est pratiquement l'équipe d'Écosse. Enfin, une grosse partie de l'équipe d'Écosse qui, est quand même, qui nous a posé problème au dernier tournoi. Non, c'est une énorme performance. Maintenant, ils ont un tableau quand même très difficile. Ils doivent jouer le quart là-bas. Là, ils vont jouer le Leinster à Dublin, l'ogre d'Europe. Donc, mais c'est bien comme a dit Pierre Mignoni, pour le groupe de Toulon et pour la fin de saison, quoi.
Simon, ça donne des chances de victoire finale aux Toulonnais.
Gagner au Leinster, même si c'est plus le Leinster d'il y a un ou deux ans ou deux ou trois, ça s'annonce compliqué, mais c'est bien pour le RCT de remettre la marque sur la carte du rugby européen. C'est bien pour Pierre Mignoni qui on
ça
sait
a de l'histoire en Europe, hein, pour le coup. RCT,
exactement,
hein.
C'est quand même un immense club du rugby européen face à ce qui est un immense club du rugby européen actuel. Bennett l'a souligné, Glasgow c'est très très fort en face. Et j'ai beaucoup aimé l'essai de Dréan, tu vois, un vrai essai de trois quarts. Tous les arrières ont touché le ballon sur l'action. Donc non, formidable, formidable, immense performance hier.
Et on félicite aussi nos joueuses de 15 de France féminin qui ont largement remporté leur premier match face à l'Italie hier en ouverture du tournoi. 40-7, on en a parlé hier, et évidemment on espère qu'elles pourront, pourquoi pas, accrocher les Anglais sur ce tournoi. On zappe. Je m'en fous pas, les amis. L'OM va refaire un stage à Marbella pour préparer la ligne droite finale. Bennett.
Je m'en fous.
Pascal.
Il est fâché après le club, il est fâché. Il a rendu sa carte de supporter.
T'en fous, Pascal? Simon?
Ils peuvent pas aller à Dubaï en ce moment, Jérôme, donc ils vont à Marbella.
Ah, je m'en fous pas. Après la victoire vendredi soir contre Metz et avant le prochain match à Lorient samedi, le club marseillais a décidé d'organiser donc un nouveau stage à Marbella, un retiro.
Metz et Lorient, on a besoin de faire un retiro pour se préparer tellement de forme.
Il s'était déjà rendu sur place fin février. Il reste 5 matchs avant la fin de saison de Ligue 1. Tu veux en parler, Jérôme?
Non, je m'en fous pas pour la bonne et simple raison, c'est que Bennett vient de le dire, entre deux matchs parfaitement abordable pour l'Olympique de Marseille, le soi-disant deuxième plus grand club du championnat. S'il faut aller en stage pour enchaîner une victoire face à Metz et une victoire face à Lorient, c'est du génie. Face avec un entraîneur qui est lui aussi un génie, puisqu'il a eu une idée super novatrice. Ça n'a jamais été fait de partir en stage. Donc, encore une fois, on est sur quelqu'un qui a des grandes idées. Je suis très inquiet pour ce club pour la fin de saison parce que, au final, on fait avec d'autres la même chose. S'ils ont besoin de partir en stage pour battre Lorient alors que tu t'appelles l'Olympique de Marseille.
Mais ça a marché l'année dernière.
C'était pas le même contexte. On était dans un sprint final. Le sprint là, il est pas lancé, hein.
Il reste 5 matchs.
Il reste 5 matchs, mais c'est pas le match de l'année, c'est pas face à Lorient.
Oui, mais bon, tu vois, peut-être ils ont moins de temps après. Enfin, retiro, je sais pas.
Et puis ça part d'une idée de génie. Ce que je vois, c'est que le club quitté par Abibay est 3e du championnat. Et celui-là est en difficulté.
Oui, bon, et c'est vrai qu'on va voir sur les Marseillais.
Tu vas pas à Lorient après le stage. C'est ouais,
mais tu vas pas en stage entre Metz et Lorient, enfin, ou alors
ils sont toujours troisième provisoirement avant le match de Lille aujourd'hui. On connaît l'histoire.
Bien sûr, dernier match de la saison, OM Rennes. Rennes sera à 2 points de l'OM à ce moment-là. L'ancien club d'Abib Bey, et Rennes va battre l'OM pour finir 4e et l'OM 5e.
Ah d'accord, bon, très bien. Tu t'en foutais, mais tu nous as quand même donné du coup l'avenir.
Rennes va bien, en ce moment, avec un très bon entraîneur.
Ils ont gagné 2-1 face à Angers hier. Tiens, et puis juste rapidement, juste rapidement, les amis, je m'en fous pas, le cyclisme Paris-Roubaix Dames arrivera après les hommes. Donc l'arrivée est prévue aux alentours de 18h20 pour Pauline Ferrand-Prévot, peut-être pour faire un doublé. Non, mais on a beaucoup parlé de ça cette semaine. Est-ce que c'est bien ou pas pour l'audience?
On peut pas s'en foutre, les garçons, parce que c'est la seule et unique raison, c'est une question financière. Ouais. Ça coûtait trop cher de faire deux courses de suite. Si on commence à s'arranger avec la course fille parce que ça coûte trop cher, je suis inquiet pour le cyclisme féminin.
Non, mais tu penses que l'audience va être moins bonne? Jérôme, ça t'a...
C'est pas la même saveur, et je pense que vu le niveau du cyclisme féminin aujourd'hui qui est étincelant et qui est fantastique à regarder,
faut le mettre plus en
c'est
avant.
Dommage de le fondre. Moi j'étais au Tour des Flandres, je peux vous dire qu'au Tour des Flandres, les filles arrivent après les gars, il y a moins de monde sur le bord de la route.
Bah oui! Et en plus, elles pâtissent du fait que chez les hommes, il y a un truc incroyable en ce moment. Donc, si tu les mets derrière,
c'est dommage parce que c'est une question
après
financière.
L'arrivée, tu vas passer sur autre chose.
Oui, oui. Alors que l'année dernière, c'était parfaitement mis en avant. Très rapidement, Pascal.
Il me semble que c'eût été mieux qu'elles courent en levée de rideau.
Bien sûr. Ou avant, ou ce matin. Mais en tout cas, pas après. Et l'an dernier, c'était le samedi. Il y avait deux courses à part entière, et ça vaut le coup.
Les grandes gueules du sport, on revient dans un instant. Tiens, on va reparler vélo, on va parler de Paul Sexa, on va parler de rugby évidemment avec Stade Toulousain UBB. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.